BW. Vue d'Allemagne.
Le calendrier des commémorations était bien rempli pour ce printemps 2020, 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération des camps nazis. Mais le coronavirus a chamboulé les projets. Dans ce numéro de Vue d'Allemagne, tour d'horizon des hommages virtuels aux victimes du nazisme. Dans la deuxième partie de ce magazine, on vous emmène à Jérusalem, en Israël, où la pandémie a des effets positifs sur le vivre ensemble entre juifs et arabes. C'est Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue.
Machanot Auschwitz, Birkenau.
Devant le mur d'enceinte de l'ancien camp de Ravensbrück, la cantatrice Mimi Schaeffer égrène le nom des camps de concentration où 6 millions de victimes du nazisme ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de prononcer le Kaddish, la prière juive du deuil.
Ravensbrück.
C'est l'un des 11 clips vidéo publiés sur le site du mémorial de Ravensbrück à l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp le 19 avril. Sur une photo, 8 personnes, dont la secrétaire d'État allemande à la culture Monika Grütters, déposent des fleurs dans le lac Schwedsee qui borde le mémorial. Ils sont alignés les uns à côté des autres, mais respectent scrupuleusement la distance d'au moins 1,50 m requise contre le coronavirus. Une galerie de photos montre aussi les gerbes offertes par les ambassades de pays comme la Pologne, la Russie ou la France, mais aussi par diverses organisations politiques et militantes dont les représentants n'ont pas pu assister aux commémorations à cause du Covid-19. Un coup dur pour la directrice du mémorial de Ravensbrück, Inza Eschebach, qui témoigne elle aussi en vidéo.
Zu diesem wichtigen Jahrestag.
Pour cet anniversaire important, nous attendions 40 survivants et leurs familles, ainsi que de nombreux autres invités du monde entier. Nous avions préparé 30 événements, un concert avec un orchestre de Cracovie, une lecture avec la résistante française Jacqueline Fleury, une exposition, des discussions, des interviews et des rencontres. Annuler tout cela à cause du coronavirus, ça a été vraiment difficile.
Comme tous les camps de concentration libérés entre janvier et mai 1945 par les troupes alliées, ceux de Ravensbrück et de Sachsenhausen, situés dans le Brandebourg, avaient prévu un programme ambitieux pour marquer ce 75e anniversaire. Mais les commémorations ont été réduites à de simples cérémonies qui se sont tenues sans invités ni public. Environ 90 000 femmes ont été détenues à Ravensbrück entre 1939 et 1945. Des chambres à gaz ont été ajoutées en 1943. Un grand nombre de ces femmes, mais aussi des enfants, ont connu une mort atroce après avoir été torturées, notamment par des médecins nazis. Lorsque la défaite nazie est devenue inéluctable, le camp a été évacué et la plupart des prisonnières envoyées vers d'autres camps, dans ce qu'on a appelé les marches de la mort. Lorsque les troupes soviétiques sont entrées dans le camp de Ravensbrück le 30 avril 1945, elles n'ont trouvé qu'environ 3000 prisonnières malades, dont beaucoup sont mortes peu après. 75 ans plus tard, les témoins de ce passé douloureux sont de plus en plus rares. Mais pandémie ou pas, le devoir de mémoire est plus important que jamais dans cette partie de l'Allemagne où l'extrême droite a le vent en poupe depuis quelques années. Dans une autre vidéo publiée par le mémorial de Ravensbrück, l'autrice et actrice Adriana Altaras, fille de 2 survivantes de l'Holocauste, met en garde contre les sirènes extrémistes.
Mais comment fonctionne la réconciliation? Est-ce que le simple fait d'être réunis aujourd'hui, quelle que soit la forme, est un élément de réconciliation? Je le pense. Une réponse pourrait être que la réconciliation signifie le sentiment d'être en sécurité en Allemagne, de faire confiance aux responsables politiques pour qu'ils veillent et de ne pas adopter bêtement les slogans et les ressentiments de l'extrême droite.
Aux dernières élections régionales de septembre 2019, l'AfD a enregistré un de ses meilleurs scores dans le Brandebourg, avec plus de 22% des voix. Dans la même région, le mémorial de Sachsenhausen rappelle lui aussi pourtant les horreurs du passé. Plus de 200 000 personnes y ont été détenues, parmi lesquelles des adversaires du régime nazi, des juifs, des tziganes, des homosexuels et des asociaux, mais aussi des prisonniers de guerre de diverses nationalités. Sur le site du mémorial de Sachsenhausen, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas met lui aussi en garde contre la diffamation de la mémoire.
Plus de 20 000 personnes ont perdu la vie dans le camp de concentration de Sachsenhausen. Si nous observions une minute de silence pour chacune d'entre elles, ce silence durerait 2 semaines. Mais la lutte contre l'oubli ne peut pas être silencieuse. Si la commémoration est diffamée comme culte de la responsabilité, si les victimes sont considérées comme des bourreaux, en Allemagne et à l'étranger, les Allemands ne peuvent pas garder le silence.
L'Allemagne assure depuis le mois dernier la présidence de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste et s'est engagée dans ce cadre à lutter contre ceux qui nient ou banalisent l'histoire de la Shoah. Une chanson interprétée par le groupe Mocha Efti Orchestra dans une des anciennes baraques de prisonniers du camp de Sachsenhausen conclut cette commémoration virtuelle de la libération des deux camps du Brandebourg. Nous en écouterons un extrait dans quelques minutes. Autre victime collatérale du Covid-19, le mémorial de Buchenwald en Thuringe a également tenu à honorer son devoir de mémoire à l'occasion de l'anniversaire de la libération des camps de Buchenwald et Mittelbau-Dora le 11 avril. Il propose un site en 3 langues sur lequel il publie, outre des témoignages vidéo, une déclaration de Thuringe. Il s'agit d'une pétition qui appelle à préserver la responsabilité historique et à défendre la démocratie et les droits humains face à la montée des extrêmes en Allemagne et dans le monde. Sur le site du mémorial de Bergen-Belsen, le témoignage d'Anita Lasker-Wallfisch fait aussi un lien entre le passé et le présent. Cette violoncelliste de 94 ans a survécu au camp d'extermination d'Auschwitz, car elle faisait partie de l'orchestre de jeunes filles. Transférée en octobre 1944 à Bergen-Belsen, en Basse-Saxe, elle y est restée jusqu'à la libération du camp par les Britanniques le 15 avril 1945. Plus de 50 000 personnes sont mortes dans ce camp. La plus célèbre est sans doute la jeune Anne Frank, dont le journal de bord a été traduit dans plus de 70 langues et est devenu un symbole des souffrances infligées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Anita Lasker-Wallfisch témoigne depuis de nombreuses années de sa propre expérience, souvent dans des écoles ou encore au Bundestag en 2018.
Mein Hass auf Deutschland, Deutsche, die deutsche Sprache, kannte keine Grenze.
Dans une vidéo enregistrée depuis sa terrasse sur fond de chants d'oiseaux, elle raconte qu'après sa libération, sa haine de l'Allemagne était si forte qu'elle avait juré de ne plus jamais y retourner. Mais dans les années 80, elle est revenue dans ce pays et a visité le site de Bergen-Belsen accompagnée d'un guide allemand. 2 générations plus tard, Anita Lasker-Wallfisch appelle les jeunes à surmonter leurs préjugés pour se rendre compte qu'ils ont bien plus de choses en commun que ce qu'ils croient.
Und ihr werdet finden, dass ihr viel mehr gemeinsam habt.
Anita Lasker-Wallfisch est une habituée des témoignages virtuels. Elle a participé au projet Dimensions in Testimony de la US Shoah Foundation. Des témoins de l'Holocauste ont raconté leur histoire sous forme de questions-réponses filmées par des caméras 3D. Le résultat est un entretien interactif entre le spectateur qui peut naviguer entre les questions et le témoin présenté par un hologramme. Anita Lasker-Wallfisch est ainsi exposée depuis le début de cette année au Musée technique de Berlin. Les commémorations virtuelles vont se poursuivre ces prochaines semaines en Allemagne et dans les pays voisins comme l'Autriche, où le mémorial de Mauthausen a même lancé une application mobile pour le 75e anniversaire de sa libération le 5 mai. Les cérémonies ont pour la plupart été reportées à 2021. Comme promis, voici un extrait de la chanson Die Moor Soldaten, les soldats du marécage, un hymne contre la dictature nazie interprété ici par le groupe Mocha Efti Orchestra, qui s'est fait connaître grâce à une série que je conseille aux germanophiles parmi vous, Babylone Berlin.
Wohin auch das Auge blicket Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erquickt. Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager. Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor.
Vue d'Allemagne, deuxième partie. En Israël, la population entame péniblement un deuxième mois de confinement. La ville de Jérusalem recense le plus grand nombre de malades infectés par le coronavirus. Depuis le début de la pandémie, la population arabe de Jérusalem-Est, moins bien informée, se sent négligée par les autorités israéliennes et a du mal à suivre les mesures sanitaires. Pourtant, face à la maladie, les différences entre Israéliens et Palestiniens semblent s'estomper. Individuelles ou collectives, des initiatives de solidarité spontanée émergent à tous les niveaux. C'est un reportage de notre correspondante Hélène MacLean.
Abou Tor est un de ces quartiers de Jérusalem traversés par la ligne verte. À l'ouest, ses habitants sont israéliens et à l'est, palestiniens. En temps normal, les deux populations se croisent mais ne se fréquentent pas. Aujourd'hui, avec le confinement, un véritable faisceau de solidarité a vu le jour. David dirige le réseau Les Bons Voisins, un groupe d'activistes pour la paix.
Trouver des masques de protection était difficile. Il fallait que chacun sorte chercher dans plusieurs magasins pour voir s'il en restait ou pas. Alors nous avons décidé ensemble de faire un achat groupé. Des volontaires juifs et arabes ont distribué les masques au pas des portes. On a évité à une bonne centaine de familles de sortir se mettre en danger pour se procurer des masques. Nous avons réuni le quartier juif et le quartier palestinien avec des besoins communs.
Nofar habite aussi le quartier. Avec le confinement, elle prend le temps d'enseigner l'hébreu à sa voisine palestinienne grâce à une plateforme de vidéoconférence.
Franchement, je peux dire que lorsque j'ai emménagé dans ce quartier, je n'étais vraiment pas rassurée. C'était en 2015, pendant la période des attentats au couteau. Il y avait beaucoup de tensions. En plus, je ne viens pas de Jérusalem, je ne suis pas habituée. J'étais vraiment terrorisée. Mais avoir l'opportunité de connaître mes voisins palestiniens en enseignant l'hébreu à des femmes arabes qui habitent ici, dans le quartier, a totalement changé ma vision des choses par rapport à cette ville et à mon quartier.
Sarah, l'élève de Nofar, se réjouit de pouvoir enfin connaître ses voisins israéliens.
Il y a des familles qui habitent les unes à côté des autres et qui ne se sont jamais parlé. Ces rencontres sur Internet entre voisins sont importantes, elles vont peut-être créer des amitiés.
Depuis l'arrivée du corona, des dignitaires musulmans, juifs et chrétiens de Jérusalem organisent des prières partagées sur Internet. Le rabbin Gila souligne l'importance de demander ensemble l'aide de Dieu contre la pandémie.
Évidemment, avec la pandémie qui touche l'humanité partout dans le monde, il nous a semblé juste de pouvoir faire écouter une voix qui vient de Jérusalem et qui prie pour la paix et la bonne santé des gens du monde entier.
Alors que toute la jeunesse de Jérusalem est invitée à rester chez elle depuis trop longtemps, les quartiers populaires arabes de Jérusalem-Est s'essoufflent. C'est pour inciter les jeunes à rester chez eux que deux musiciens, israéliens et palestiniens, ont décidé d'offrir des concerts sous les fenêtres des immeubles de ces zones difficiles. Le chanteur palestinien Mouzi Raps a souhaité mettre sa notoriété au service du combat contre le coronavirus.
Je voulais vraiment agir, d'abord parce que nous sommes tous en quarantaine et que personne n'a vraiment envie de rester à la maison. J'ai donc pensé faire quelque chose de différent, venir vers les gens en chantant dans la rue, justement dans ces moments difficiles pour faire comprendre que rester à la maison, c'est mieux pour toi.
En participant à ces concerts, le DJ israélien Ramzi Al-Spinoza a même l'impression d'agir pour la paix.
Cette période de corona est une période parfaite pour montrer qu'on peut mettre de côté toutes les différences, les rancœurs, les querelles entre juifs et arabes. On a justement choisi d'aller dans les quartiers arabes pour rendre les gens un peu plus joyeux. Ça a été une expérience formidable à Shuafat, à Beit Hanina. C'était super de voir les gens participer et heureux d'écouter la musique. Moi, je crois que grâce à cette situation, on peut vraiment mieux fonctionner ensemble.
Non loin de là, à Gaza, on n'a pas la même liberté de connaître ses voisins. Les forces du Hamas ont arrêté des jeunes Palestiniens pour avoir contacté des Israéliens militants pour la paix sur Internet. Accusés de trahison, ils sont en prison pour une durée indéterminée. À Jérusalem, Hélène MacLean pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotta-Talon à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tschüss.